Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. C'est l'interview du jour. Nous allons parler de l'enfance à l'œuvre, le spectacle dans lequel jouera Robin Renucci ce soir au Théâtre de Die. Alors bonjour Robin Renucci et bonjour Nicolas Stavi.
Bonjour.
Alors, on est là pour parler du spectacle L'enfance à l'œuvre. C'est effectivement écrit un spectacle. Je me demandais la nuance avec la pièce. Peut-être qu'on peut commencer par ça.
Au théâtre, disons qu'une pièce, c'est un lieu où il y a des personnages, souvent des dialogues ou une écriture qui est faite par un auteur. Là, il y a plusieurs auteurs. C'est un outil qui est un tissu, en fait, littéraire de plusieurs auteurs. Paul Valéry, Romain Gary, Arthur Rimbaud, Marcel Proust, qui constituent donc une heure, un peu plus d'une heure, 70 minutes de spectacle. Donc on peut parler d'un spectacle musical et littéraire, ce qui n'est pas pour autant une lecture ni une pièce. C'est-à-dire que c'est pas un acteur qui lit des textes, c'est un acteur qui a mémorisé des textes et dont la dramaturgie, c'est-à-dire la mise en chantier de ces textes les uns avec les autres, crée une histoire. D'humains qui traversent le temps et qui, pour certains, se souviennent de leur enfance, le thème étant beaucoup autour de l'enfance.
Il y a une mise en scène donc assez particulière et assez innovante par rapport
à la mise
façon
en scène. Il y a une mise en scène que nous avons mise en chantier avec Nicolas Kersenbaum sur une idée que j'ai formulée, donc que j'ai souhaité qu'il existe, qui est le choix de parler de l'enfance à travers le regard d'adulte que nous sommes dans la salle et que nous sommes sur le plateau également, mais à l'intention aussi des jeunes gens pour leur dire et nous rappeler que l'enfance est essentielle. L'enfance, c'est le moment de la germination des choses, de l'être qui va s'élever, et que très souvent, pour de multiples circonstances qui sont politiques, dont on peut parler également, l'enfance est souvent la proie de l'attention qu'il peut, cet enfant, prodiguer. Donc on manque parfois d'attention à son égard, et lui-même peut être emporté dans un manque d'attention à l'école, dans la vie. Et cette attention aux choses, là, c'est l'endroit de la construction de soi, le temps, l'ennui, par exemple, dont certains auteurs parlent, ou nous avons vécu dans notre enfance, qui est un moment essentiel, qui est très souvent rempli, comblé par des outils ou des comportements que les adultes ont envers les enfants. Et ce temps de la construction de soi, c'est ce dont parle, en effet, Marcel Proust, quand il se souvient de petits éléments sensoriels de sa vie, gustatifs, ou de contemplation de choses, ou d'être. Voilà, donc ça parle du temps. Voilà. C'est un temps donné, 70 minutes, très intense, avec un matériau littéraire, comme je le disais, mais aussi un matériau musical très très important, où là aussi il y a des compositeurs, des auteurs, et surtout Nicolas Stavi qui interprète à égale présence sur le plateau l'écriture de ces auteurs sur le même thème.
Comment vous avez fait pour coordonner du coup le choix de ces auteurs, de ces textes et de la musique ?
Alors, ça a été un travail que nous avions fait déjà sur d'autres projets, d'autres programmes. En effet, qu'une musique sans langue, sans mots, puisse évoquer des états, des atmosphères, des contemplations, des écoutes, et donc des réponses subjectives toujours. La musique n'est pas là pour apporter une mission précise, elle est là pour répondre ou pour relier des textes qui peuvent être d'écriture très différente, comme la poésie de Rimbaud, qui est un rythme extrêmement différent, par exemple, de la narration de Gary. Donc c'est une forme comme ça qui permet, par la musique, de au public, soit de penser aux œuvres littéraires qu'il a pu entendre, ou de les relier, ou parfois de leur répondre par des musiques que j'ai choisies finalement extrêmement intenses, extrêmement fortes, des musiques romantiques quasiment intégralement, hein, qui parfois rêveuses, parfois au contraire très dynamiques, et qui pouvaient, par leur subjectivité, résonner à ces textes de façon, voilà, pour chaque spectateur de façon différente, mais pour moi extrêmement forte. Et on en a beaucoup discuté ensemble pour arriver à donner cette dramaturgie continue, hein, de, non pas de rupture de musique, de rupture entre des textes, mais au contraire une façon de les relier. Donc la musique n'est pas là pour soit ni paraphraser ni accompagner le spectacle, mais elle est là pour au contraire vraiment répondre avec force, hein, des textes forts, des musiques fortes qui se donnent la main quelque part, qui se répondent avec simplicité mais intensité.
C'est pas un accompagnement musical, ce sont des choix réfléchis autant que le choix des textes.
Ah oui, complètement. Oui, c'est une réponse les uns des autres, hein, les unes les uns avec les autres, et c'est une façon de voilà, d'avancer sur une grande arche. Le spectacle est vraiment continu, il n'est pas entrecoupé.
Alors, j'ai vu que c'était un spectacle qui s'adressait au public à partir de 11 ans. Donc, c'est un spectacle qui part de l'enfance, mais qui ne s'adresse pas spécialement aux enfants. Par contre, on s'adresse à l'enfant qui est, d'après certains, dans chaque adulte.
Oui, c'est ça, l'être humain en perpétuelle transformation, on peut dire élévation, qui est un terme souvent donné aux enfants quand ils sont élèves de l'école, mais tout au long de sa vie, oui, et la responsabilité qu'ont les adultes envers les enfants, qui sont une promesse d'humanité à venir, de construction, donc ça s'adresse également dans un cadre, voilà, de la nécessité de se préoccupé, voilà, de l'enfance, tout autant que l'enfant lui-même, il trouve un intérêt à entendre des histoires d'enfants qui sont devenus des adultes riches, tellement riches, sont devenus des auteurs qui augmentent nos capacités de perception du monde. Et parfois, ils sont rasoirs, comme on dit, ces auteurs dans la classe, si on a un a priori ou si la transmission de ces auteurs n'est pas au bon endroit, parce que certains ont des a priori. Adultes comme enfants, sur Marcel Proust ou sur la poésie d'Arthur Rimbaud, même, parfois ne connaissent-ils pas Arthur Rimbaud, ça arrive. Donc c'est important d'être au milieu de la littérature et que les mots qui sont choisis, tout comme les notes de musique, amènent l'autre à se préoccuper de cette question et à penser à soi. Pendant le temps du spectacle, les gens pensent à eux-mêmes, pensent à leur propre vie, leurs propres souvenirs. C'est pour ça que la musique est très importante, comme relais à la parole, dans la conversation que les gens ont avec eux-mêmes. Nous sommes très surpris de voir le public arriver nombreux, grâce au beau travail de la Comédie de Valence, dans le travail des relations publiques. C'est très important que les communes soient sensibles, puisqu'il faut rappeler que nous jouons dans des petites communes de la Drôme et de l'Ardèche pendant 3 semaines. Dans des salles des fêtes, dans des endroits où il y a parfois une acoustique et un cadre qui n'est pas forcément le plus favorable au théâtre, et que notre mission pour la Comédie de Valence et les Tréteaux de France, que je dirige donc, qui est un centre dramatique national, se déplace avec le même luxe, je dirais, dans des lieux qui ne sont pas forcément luxueux, qui accueillent avec grande dignité le public, mais qui n'ont pas été construits pour le théâtre. Donc les lumières, le décor, la façon dont on peut converser avec les gens avec une élégance, oui, c'est le mot qui est recherché, c'est-à-dire entre nous, et cette élégance que nous apporte le public par la qualité de sa présence, de son écoute, de sa sensibilité. Tous les soirs, tous les jours, nous sommes comblés. Quand on voit arriver 130 personnes dans un lieu qui peut être bruyant dans le hall, et puis tout d'un coup, on se rend compte que dans l'espace immédiatement provoqué par le décor et la lumière dans lequel ils entrent, un lieu de communion, un lieu d'échange, qui est le lieu théâtral, symbolique, eh bien, les gens se mettent en écoute, et puis il y a une paix qui se produit, et une véritable force, voilà, qui émane du public tout autant que de nous deux, Nicolas Stavier et moi.
Vous arrivez à faire passer le message, parce que quand on vous entend parler, on a l'impression que vraiment vous avez quelque chose à dire, et on n'est pas dans vraiment l'interprétation de chacun d'un message. Vous voulez vraiment dire quelque chose au public. Pour le moment, vous avez l'impression que c'est bien reçu.
Ah bah de fait, oui, c'était très clair que le spectacle se déroule exactement comme nous souhaitons qu'il se déroule. Nous le jouons régulièrement, depuis pas mal de dizaines de fois maintenant, et c'est la qualité du public qui nous étonne toujours, puisque un spectacle n'est pas fait que de ceux qui émettent des choses, c'est aussi la perception, la réception d'un public. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, le public est extrêmement, joue sa partition très très fortement. D'ailleurs, il reste longtemps avec nous après le spectacle, on peut continuer à parler, mais il y a un moment assez sacré là, qui se produit, d'écoute, et en effet, de perception humaniste très forte qui amène le public à se poser des questions sur qu'est-ce que l'enfance, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, comment on occupe le temps de nos enfants, quels adultes on a envie qu'ils deviennent. Et c'est vrai que c'est le projet du spectacle, en effet, de se poser ces questions-là.
On ne touche pas à quelque chose de nostalgique ?
La nostalgie peut être un tremplin d'action, un moteur. Se souvenir de son enfance peut permettre à certains, sachant d'où il vient ou d'où elle vient, de mieux appréhender le présent et l'avenir. Donc sans doute que... Mais c'est la nostalgie, comme chez Homer, elle n'est pas une tristesse, ça peut être tout à fait une source de joie et... un moteur, un tremplin d'action. Donc c'est dans ce sens-là. Je crois que le spectacle est fait pour agir. Il n'est pas fait pour se perdre dans des rêvasseries. Au contraire, je ne pense pas qu'on rêvasse. On rêve beaucoup, on pense beaucoup et on est très présent. Il y a une présence consciente, physique, pendant 70 minutes, qui perdure, je pense, après.
On ne se perd pas.
On peut se perdre dans ses pensées, un peu, mais... Se perdre, c'est aussi un bon moyen de lâcher prise de certaines préoccupations qui occupent, qui peuvent être parasitantes dans le cerveau. En tout cas, on est très présent, le public est extrêmement présent. C'est, au bout de quelques années d'expérience avec la salle, avec le public, ce sont nos métiers, on voit quand les spectateurs sont là, on dit ils sont là. Mmh. Et on est sensible à cette qualité du temps, parce qu'il n'y a que le temps qui est tangible, en fait, qui soit l'instant, cet instant dans lequel nous sommes au moment d'un spectacle. Quand on arrive à cet endroit-là, il se passe quelque chose.
En tout cas, si les gens peuvent se perdre dans leurs pensées, voilà, vous gardez quand même l'attention des gens avec vous.
Ah oui, non, quand je dis se perdre dans leurs pensées, c'est vous qui le disiez. Moi, je ne pense pas qu'ils se perdent dans leurs pensées.
D'accord.
Au contraire. Non, ils sont très, très présents, justement. C'est une présence très consciente qui leur permet aussi de rêver à leurs propres histoires, puisqu'on voit des yeux rougis, on voit des yeux émus, on voit des yeux des gens qui... Bon, alors que ce sont des mots, hein, ce sont des mots et des musiques. On voit bien que les gens sont touchés profondément, donc c'est qu'ils sont présents.
Les choix musicaux, voilà, on peut revenir dessus, on en a parlé. Vous les avez faits conjointement, consciemment, pas dans la volonté juste d'accompagner, mais il y a un vrai choix.
Oui, tout à fait. En fait, le choix peut être paradoxal sur le papier. L'idée n'était pas du tout de réaliser un programme, c'est-à-dire avec Proust de répondre avec la sonate de Vinteuil, par exemple, ou des références immédiates comme ça, mais vraiment de toucher justement l'intensité de ces textes. Et c'est finalement surtout dans la musique romantique germanique et russe que j'ai trouvé finalement des miroirs, des échanges, des réflexions avec Brahms, avec Schubert, avec Schumann, Scriabine, Rachmaninov, Tchaïkovski. Donc des musiciens qui ont écrit des musiques très 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 intenses, etc., et qui finalement ont beaucoup travaillé sur la notion de silence. Qu'est-ce que c'est que cette intensité du silence, qui est un petit peu finalement le silence du public, qui n'est jamais un vide et qui n'est jamais une absence, mais au contraire qui est extrêmement plein. Et quand on entend, par exemple, la mélodie hongroise de Schubert, il y a cette espèce de vie du silence qui précède, mais surtout qui suit la musique et de tout ce qui fait cette chose, ce moment un peu énigmatique. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette force dans le silence, voilà.
Est-ce qu'il y a justement des places pour le silence entre deux textes ou entre deux morceaux de musique? Il y a des moments de calme ou...
La musique est faite de silence, voilà, et de notes, et les mots sont des silences et des mots. Donc c'est un chant, oui, qu'on entend, vocal et musical, qui est parsemé de silence. Voilà, c'est la qualité des mots et du silence entre eux qui font que...
On a effectivement pas mal travaillé sur les échanges qui doivent après paraître naturels, et j'espère qu'ils le sont pour le public, mais effectivement, il y a les temps qu'il peut y avoir entre texte et musique, musique-texte, sont très importants, parce que certaines musiques peuvent lancer un texte, ou au contraire, justement, nécessiter un temps, comme au cinéma, comme dans la vie, où des fois, voilà, quelque chose débouche immédiatement sur quelque chose. Parfois, on a besoin d'un temps qui n'est pas mesurable, mais qui est cette suspension, un temps suspension. Donc je pense que le spectateur ne se rend pas compte de cette idée-là, qu'il peut y avoir du temps, ou au contraire une immédiate retombée du texte sur la musique, ou de la musique sur le texte, mais c'est finalement cette constitution de la dramaturgie du spectacle qu'on a essayé de construire afin que, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle effectue une arche, une continuité vraiment réfléchie. Ouais.
Et après le spectacle, quand on a un peu digéré et qu'on rentre chez soi, c'est des choses qui peuvent résonner encore, rappeler...
Pour nous-mêmes, pour les
acteurs. Pour vous et pour le public, si vous avez des retours de ce type.
Bah oui, je pense que quand on ramène les gens à leur propre instant, au maintenant... Voilà, à l'ici et au maintenant, il y a quelque chose qui s'ouvre en eux. On arrive à oublier tout ce qui parasite l'esprit, à être dans un état de pensée apaisée. Donc c'est bon, je pense que c'est bon pour le public, ce qu'on partage. Partager 70 minutes intenses, c'est toujours très bon dans une vie. Puis on rencontre des gens dans ce cadre de la Comédie de Valence qui ne sont jamais allés au théâtre pour certains, même si depuis plusieurs années la comédie fait ce travail. C'est beau de voir que progressivement s'approche de nous, de ces lieux-là, d'une forme de communion, comme je disais, des gens qui savent qu'ils vont y trouver quelque chose de bon pour eux-mêmes, alors que le théâtre peut être intimidant, ou l'idée même de se diriger vers un lieu de culture qui est imposé d'une certaine manière, c'est-à-dire qui arrive quelque part, qui vient se poser là dans un espace, peut dire c'est pas pour nous. Et en fait, il y a des gens qui ne sont jamais venus et qui progressivement se déplacent vers ce moment de lumière, cette lanterne de lumière à la source d'un éclairage qu'ils ignorent parfois et qui va tout d'un coup changer leur quotidien. Donc ça, c'est aussi le but d'élargir les publics, et que ce ne soit pas fait pour les gens qui aiment la musique ou qui aiment la littérature. Il y a des gens qui ne connaissent absolument pas les auteurs dont on vient de parler, et qui après me disent éventuellement « c'est votre vie ou... ». Donc voilà, c'est ça, c'est intéressant.
Des gens pas forcément acquis déjà au théâtre, qui n'ont pas forcément leurs habitudes. C'est important pour vous, ça, d'aller vers des gens qui n'iraient pas forcément vers vous, par exemple, dans des salles un peu plus importantes?
Ben, c'est essentiel, c'est pourquoi je fais ce travail, c'est pourquoi nous nous déplaçons, c'est pourquoi les Tréteaux de France, comme la Comédie de Valence, souhaitent aller à la rencontre de ces publics qui ne font pas partie des 20% d'entre nous qui sont habitués, disons, à avoir cette offre augmentée. Et là, c'est se dire qu'on habite là où nous sommes, sur les territoires où nous sommes, qui la plupart du temps, je le vois tous les jours, sont des territoires parfois oubliés pour certains, mais là où les gens vivent avec beaucoup d'intensité aussi. Donc que ce dû qui leur est dû, c'est-à-dire des spectacles de service public faits avec les impôts des gens qui doivent nécessairement être près de chez eux, près de chez soi pour pouvoir les goûter, les vivre, voilà, c'est une mission de service public que nous assumons bien entre Richard Brunel, directeur de la Comédie de Valence, et moi-même à la direction des Tréteaux de France. C'est un besoin même, c'est un public qui manque au théâtre. C'est très délicat toujours de penser que le théâtre manque aux gens. Certains gens du milieu culturel peuvent se dire la culture pourrait manquer à des gens. D'une part, les gens sont pleins de culture, pas forcément la même. Le fait de ne pas savoir forcément, parfois, mais c'est une forme très forte de culture. Et puis, ils savent beaucoup de choses que ceux qui disent être les gens de la culture connaissent. D'autres sont d'autres connaissances. Mais se familiariser, d'aller spontanément vers un lieu qui est un lieu de théâtre ou un lieu de musique... C'est tous les jours que nous voyons que le chemin n'est pas là pour certains, et puis le projet n'est pas de leur apporter cela, c'est juste de leur dire, si vous voulez converser, venez, et c'est qu'ils fassent ce chemin eux-mêmes. On n'apporte pas la culture aux gens. Nous disons régulièrement, nous sommes des rémouleurs, c'est-à-dire que nous n'apportons pas l'outil des gens. Le rémouleur, c'est celui qui apporte une meule, et chacun vient avec ses ciseaux, ses couteaux...
Pour les aiguiser.
Aiguiser son propre outil. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. On n'apporte pas l'outil. On n'apporte pas la culture aux gens, ils l'ont. D'abord, ils viennent aiguiser leur propre perception du monde ou parfois énergie qu'ils ont en eux. Voilà, on peut tout à fait, même sur des énergies négatives qui sont constructives pour chacun. Mais voir la haine de son voisin qu'on voit tous les jours et qu'on n'a voilà, plus envie de voir, et puis on se dit tiens, ce soir, je n'ai pas envie de voir mon voisin, je n'ai pas envie de me regarder ma télévision, j'ai envie de sortir, on m'a dit qu'il y avait un truc, ben, j'y vais dans la salle des fêtes. Ce sont parfois les plus belles rencontres pour nous, les remerciements que nous avons aussi.
En tout cas, je pense que vous parlez à un public acquis à la cause des services publics, puisque dans le Diwa, on est en train de se battre pour notre hôpital, notre école en partie, notre gare, et ainsi de suite.
Mais tout ça est systémique, c'est un ensemble de désirs. Moi, je suis surpris avec mon ami Nicolas Stavide, alors que nous nous déplaçons, nous déjeunons, nous dînons, près des gens, avec les gens, dans des lieux également, de voir le foyer de vitalité et de qualité. En fait, qu'il y a dans peut-être des lieux de résistance. Hein, celui qui fait sa cuisine avec des produits de proximité, dans des circuits courts. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer chez vous. Voilà. Enfin, dans les régions, mais particulièrement, je trouve, en Drôme-Ardèche, qui sont des départements dits pauvres du point de vue du PIB, mais où il y a énormément d'initiatives. Et cette qualité est due à la présence, en effet, de lanceurs d'alerte, comme peuvent être les lieux de culture. Nous ne sommes que cela, en fait, des lanceurs d'alerte, qui font des petits phares dans la nuit, et puis progressivement, les gens viennent si... Ce que vous faites avec votre radio, ce que vous faites avec le théâtre de Die, etc. Et de gagner progressivement des gens qui sont étanches, oui, parce qu'il y a des systèmes d'industrie de programmes, notamment la télévision, quand elle est mauvaise, ou quand enfin, les programmes sont mauvais, ou... viennent séparer les gens. Mais les lieux de réunion que nous formons sont des lieux où les gens se précipitent dès qu'ils ont vu cette petite lumière.
Et si l'on devait conclure pour dire une dernière chose qui donne envie aux auditeurs et aux auditrices de Radio Diwa de venir voir l'enfance à l'œuvre.
Je crois que nous l'avons dit. Voilà, nous l'avons dit. Venez si vous le voulez, si vous le souhaitez, si le plaisir vous en dit. Voilà, et nous sommes là pour partager quelque chose et pas pour apporter quelque chose que les gens n'auraient pas, mais mettre en commun quelque chose.
Ben merci beaucoup Romain Renucci, merci beaucoup Nicolas Stavy. Alice Montagnier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes en charge de la coordination par rapport à ce projet donc de comédie itinérante. De quoi s'agit-il ?
Donc la comédie itinérante, il s'agit du projet de décentralisation de la Comédie de Valence, le centre dramatique national qui est implanté à Valence. Et nous avons pour mission de tourner en Drôme et en Ardèche. Donc nous tournons 6 spectacles là cette saison dans 30 communes de la Drôme et 30 communes de l'Ardèche, ce qui représente en moyenne 100 représentations là, sur l'année.
Donc on fait venir des spectacles dans des toutes petites communes et dans des salles qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir ce type de spectacle.
Exactement. Le projet, donc, c'est de présenter des spectacles qui ont la même exigence artistique et technique qu'à la Comédie de Valence, mais dans des espaces qui ne sont pas des lieux initialement dédiés au théâtre. Donc nous jouons dans des salles des fêtes, dans des gymnases, et nous avons la chance de jouer à Die dans un vrai théâtre. Il s'agit de l'unique partenaire lieu de théâtre qui nous accueille sur la saison.
Comme le disait Robin Renucci, c'est l'occasion effectivement de faire venir quelque chose vers des gens qui n'iraient pas forcément le chercher ailleurs. Ça fait partie évidemment du projet de la comédie itinérante.
En effet, le projet initial, c'est vraiment de s'appuyer sur des partenaires locaux, que ce soit des associations, mais également des communes qui nous accueillent. Et avec ces communes-là et ces associations, on va travailler très en lien pour tisser des choses au niveau des publics et faire venir les gens au théâtre, puisque le théâtre arrive dans leur commune.
Alors concrètement, il s'agit de quelles dates et de quels endroits à venir ?
Alors le spectacle, là, pour ce qui est de l'enfance à l'œuvre, il joue donc jusqu'au 8 décembre. Nous jouons là deux dates en Drôme, Die et Roussas. Nous tournons depuis le 8 novembre. Et puis, nous jouons jusqu'au 8 décembre. Nous jouerons la semaine prochaine plutôt en Ardèche et puis à proximité de Valence aussi, à la Baume-Cornillane et Soyons. On est très heureux de ce partenariat avec le Théâtre de Die qui se prolonge donc là depuis plusieurs saisons. Et cette saison, nous collaborons, nos deux institutions collaborent autour de l'accueil de deux spectacles, donc L'Enfance à l'œuvre ce soir, vous l'aurez compris. Et puis l'accueil de Chantal dans les étoiles, il s'agit de la dernière création du Théâtre Paul Nord, de la compagnie Paul Nord, qui jouera donc le jeudi 1er mars au Théâtre de Die à 20h. Et le théâtre nous accueille également pendant 2 jours, autour de ce spectacle-là, pour réaliser l'adaptation du spectacle en comédie itinérante, une générale, et puis la première représentation.
Voilà. Merci beaucoup, Alice Montagnier.
Merci à vous.
Alors, Pauline Levet, chargée de communication pour le Théâtre de Die. On va faire ensemble le tour des informations pratiques concernant L'Enfance à l'œuvre et puis des prochaines dates qui auront lieu au Théâtre de Die.
Oui, tout à fait. Pour le spectacle L'Enfance à l'œuvre, c'est donc ce soir, mercredi 29 novembre à 20h. 20h précises. Donc si vous n'avez pas encore votre place, je vous invite à venir au plus tôt au théâtre. Donc on ouvrira la billetterie à 19h. Voilà, c'est pour le tout public à partir de 11 ans.
Concernant les prochaines dates qui auront lieu au Théâtre de Die.
Alors, pour les prochaines dates, donc la prochaine, c'est le spectacle Clairière, qui est un spectacle de marionnettes et théâtre d'objets. Alors, c'est l'histoire d'Ours, qui est une petite fille qui est née dans une forêt et qui a grandi donc, dans cette forêt, à l'abri des affaires des hommes. Et son terrain de jeu, c'est une clairière où elle observe la nature aux côtés de ses parents. Ses parents qui ont fait le choix de vivre en autarcie. Et un jour, Ours va décider de traverser la forêt, peuplée de créatures étranges, pour aller à la rencontre des autres. Voilà, donc c'est une pièce qui est autobiographique, vu que c'est l'histoire de Emily Fleischer qui a conçu le spectacle. Voilà, et donc sur scène, il y a donc deux actrices marionnettistes qui font vivre les personnages. Voilà, de cette petite fille Ours qui évolue entre deux âges, entre deux mondes, et donc dans un paysage miniature et feutré par la marionnette et le théâtre d'objets. Donc ce spectacle, c'est le mardi 5 décembre à 18h, c'est pour le tout public à partir de 5 ans, par la compagnie Arnica, et donc les mêmes informations toujours pour réserver, soit par mail à l'adresse billetterie@est-west.com, soit par téléphone au 04 26 58 80 35. Voilà pour ce qui est de Clairière. Et ensuite, on a encore une autre pièce 2 jours plus tard, donc la pièce Andorra, le jeudi 7 décembre à 20h. Alors pour le coup, c'est une pièce de théâtre à partir de 13 ans. C'est donc... Andorra, c'est un petit pays imaginaire qui est menacé d'invasion par les Kazakhs noirs, les soldats de la dictature voisine. Et donc les habitants d'Andorra, ils tolèrent chez eux la présence d'un réfugié qui s'appelle Andri. Mais le jour où les Kazakhs noirs envahissent Andorra, les habitants commencent à trouver la présence d'Andri encombrante. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce pays, de ce personnage. C'est une pièce en fait qui pose la question de qu'est-ce qui fait que l'autre est un autre, est un étranger, et qui aussi remet en perspective le fait qu'à cause du regard que les autres citoyens portent sur lui, l'étranger, le réfugié, il se persuade de sa différence et il ressent le besoin de sortir de cette société qui ne veut pas de lui. Donc c'est une pièce qui est complètement d'actualité, je pense. Voilà, c'est d'un texte de Max Frisch, qui est un écrivain intellectuel et philosophe allemand, qui était fortement opposé au régime nazi, au mur de Berlin, à la guerre du Vietnam, etc. Enfin voilà, qui a une vie passionnante. Donc c'est son texte. Et autour de cette pièce, pour aller un petit peu plus loin dans la découverte de ce spectacle, alors il était prévu un petit déjeuner projection avec un film autour de la vie de Max Frisch, qui malheureusement ne pourra pas avoir lieu pour des raisons techniques. En revanche, il y aura tout de même le mercredi 6 décembre à 20h30 au Pestel, le film Retour à Montauk, qui est sorti cette année et qui est d'après le texte Montauk de Max Frisch. Voilà. Donc pour Andorra, je vous rappelle les informations, c'est le jeudi 7 décembre à 20h. Voilà, et je vous invite à réserver à la même adresse billetterie@est-west.com ou au numéro de téléphone 04 26 58 80 35. Et toutes nos informations sont sur le site internet www.théâtre-2-10.com.
Merci d'être à notre écoute. Vous pouvez retrouver toutes nos autres interviews sur le site internet, le www.rdwa.fr, rubrique interview. Interview.